Extrait des chroniques du hors-temps. La déclaration de sécurité cosmique. Une performance artistique solitaire. Une fois la conversation de la cérémonie du thé rendue publique, chacun se mit à réfléchir à la meilleure manière d'adresser cette déclaration de sécurité à l'univers. Depuis les hautes sphères scientifiques mondiales jusqu'aux écoliers de primaire, tous firent marcher leurs cellules grises et formulèrent d'innombrables réponses. C'était probablement la première fois dans l'histoire que l'humanité concentrait l'ensemble de son énergie à résoudre un même problème concret. Mais le mystère de cette déclaration s'épaississait au fur et à mesure. Les propositions pouvaient grossièrement être divisées en deux grandes catégories, celles émises par les partisans de la proclamation et celles des partisans de l'automutilation. L'idée des partisans de la proclamation était simple. Clamer haut et fort à tout le cosmos que la civilisation terrienne était inoffensive. Ceux-ci se consacraient principalement à l'étude de la manière la plus adéquate d'adresser ce message. Mais pour la plupart des gens, cette proposition était absurde, car peu importe la subtilité de la déclaration, qui la croirait au sein de cet univers froid et cruel? D'autant que pour qu'elle soit efficace, il fallait qu'elle soit crue par la totalité des innombrables civilisations de l'univers. Les partisans de l'automutilation étaient bien plus nombreux. Ceux-ci considéraient que le contenu de la déclaration devait pouvoir traduire concrètement ce qu'elle prétendait, c'est-à-dire qu'elle devait joindre le faire au dire, et des deux, c'était surtout le faire qui comptait. L'humanité devait payer le prix de sa survie dans la forêt sombre. Il fallait transformer la civilisation de la Terre en civilisation sûre. En d'autres termes, il fallait mutiler sa propre civilisation. La majeure partie des adeptes de l'automutilation visait en particulier la technologie et préconisait que l'humanité sorte de l'âge spatial et de l'information pour revenir à une société de basse technologie, à la manière par exemple des sociétés de la fin du XIXe siècle dont l'énergie reposait sur l'électricité et sur les moteurs à combustion. Certains suggéraient de remonter bien plus loin encore et de retourner à l'état de société agraire. Dans une situation de déclin de la population mondiale, cette proposition n'était pas irréalisable. De ce point de vue, la déclaration de sécurité était une déclaration de basse technologie. Une idée bien plus radicale avait aussi émergé chez certains partisans de l'automutilation. Amputer l'humanité de son intelligence. On utiliserait des drogues ou des techniques neuroscientifiques pour abaisser le niveau de l'intelligence humaine. Une fois cette première étape accomplie, on fixerait génétiquement ce niveau d'intelligence et il en résulterait rapidement l'émergence d'une société de basse technologie. Cette automutilation technologique poussée à l'extrême était fortement décriée, mais elle n'en était pas moins répandue dans certains cercles. La déclaration de sécurité revenait dans ce cas à être une déclaration de faiblesse intellectuelle. De nombreuses autres idées existaient. Les adeptes de l'autodissuasion recommandaient pour leur part l'instauration d'un système d'autodissuasion qui, une fois activé, échapperait au contrôle des hommes. Si le système détectait une attitude humaine dangereuse ou menaçante, il déclencherait un mécanisme de destruction du monde. C'était un festin pour l'imagination, à la table duquel étaient servies des propositions de tout genre, certaines subtiles et étranges, et d'autres aussi terrifiantes et pernicieuses que les préceptes d'une secte. Mais aucune d'entre elles ne saisissait l'essence même de la déclaration de sécurité. Un tel lectra avait indiqué que l'une des particularités essentielles des attaques de la forêt sombre était leur nature arbitraire. Les assaillants ne procédaient à aucune investigation approfondie sur leur cible. Dans les plans qui avaient été suggérés jusqu'ici, l'humanité était condamnée à effectuer une performance artistique sans public. Quelle que soit la sincérité de sa performance, elle serait seule à se regarder. Et même s'il existait réellement des civilisations bienveillantes qui surveillaient la Terre à une distance proche, et avait recours à des artefacts d'espionnage tels que des intellectrons pour l'étudier sur la durée, elle ne représentait qu'une part extrêmement infime des milliards d'autres éparpillés dans l'univers. Pour la majorité des civilisations, le Soleil n'était qu'un faible point lumineux à des myriades d'années-lumière. Il ne présentait aucune singularité ni aucun détail. C'était la structure mathématique fondamentale de la forêt sombre. Il y eut un temps où les scientifiques humains avaient eu la naïveté de croire qu'on pourrait découvrir des indices d'une civilisation lointaine grâce à des méthodes d'observations astronomiques, en s'appuyant par exemple sur l'analyse du spectre d'absorption de l'oxygène, du dioxyde de carbone et de l'eau d'une planète, ou bien l'étude de ses rayonnements électromagnétiques. Certains mettaient en avant des méthodes plus fantaisistes, telles que l'observation de traces potentielles de sphères de Dyson. L'humanité savait maintenant qu'elle habitait un univers où toutes les civilisations se cachaient les unes des autres. Si on ne détectait aucune trace d'intelligence dans un système particulier, cela pouvait être parce qu'il était encore vierge, ou bien le signe que la civilisation qui s'y trouvait était déjà suffisamment mature. La déclaration de sécurité reposait elle aussi sur la diffusion cosmique, et son contenu nécessitait d'être cru par tous ceux qui seraient amenés à l'entendre. Il était une étoile lointaine, un point lumineux vaguement visible dans la nuit, et tous ceux qui la regardaient d'un œil pouvaient dire « Oui, cette étoile est sûre ». Voici ce qu'était la déclaration de sécurité cosmique. Une chose impossible à réaliser. Une autre énigme avait de quoi intriguer. Pourquoi un tel Lectra n'avait-elle pas dit aux humains comment diffuser cette déclaration ? On pouvait certes tout à fait comprendre que les survivants de la civilisation trisolarienne souhaitent bloquer tout transfert de technologie à l'humanité. Depuis la diffusion cosmique des ondes gravitationnelles, les deux mondes avaient été jetés en pâture à une galaxie, voire à un univers malveillant. Ils ne représentaient plus une menace l'un pour l'autre et n'avaient plus de lien à entretenir. Avec la lente disparition de la flotte trisolarienne dans l'espace, les communications entre les deux civilisations seraient de plus en plus ténues. Mais il était une réalité que Trisolariens et Terriens n'oublieraient jamais. Tout était venu de Trisolaris. C'était Trisolaris qui avait la première déclaré son intention d'envahir le système solaire. C'était Trisolaris qui avait projeté d'anéantir l'humanité et qui avait failli y parvenir. Si la Terre connaissait un bond technologique majeur, sa vengeance serait inéluctable. Et celle-ci s'exercerait sans doute sur le prochain havre de vie investi par les survivants de Trisolaris. Il était d'ailleurs possible que la Terre se venge avant même d'être détruite par une attaque de la forêt sombre. Mais il en allait différemment avec la déclaration de sécurité. Si cette proclamation pouvait permettre à l'univers entier de s'assurer que la Terre était une civilisation inoffensive, elle le serait aussi pour les Trisolariens. N'était-ce pas là ce qu'ils voulaient ? On ne possédait aucun indice sur la mise en œuvre concrète de la déclaration de sécurité cosmique, et des études sérieuses tendaient à conclure qu'une telle entreprise était tout bonnement impossible. Mais malgré tout, l'attente du grand public faisait peser une pression insoutenable. Même si la plupart des gens avaient bien conscience que les propositions du moment étaient inefficaces, ils ne pouvaient imaginer qu'on arrête les recherches. Une ONG européenne tenta de construire une antenne de transmission extrêmement puissante, capable de se servir du pouvoir amplificateur des miroirs solaires pour diffuser la déclaration de sécurité qu'elle avait elle-même rédigée. Mais le projet fut très vite interrompu par les forces de police. Les 6 gouttelettes du système solaire étaient parties 6 ans plus tôt et le blocage des capacités d'amplification solaire avait été levé. Aussi, de telles transmissions étaient dangereuses, car elle risquait de dévoiler de façon précoce les coordonnées de la Terre. Il existait une autre organisation appelée les Sauveurs Verts, qui comptait plusieurs millions de membres sur tout le globe et préconisait le retour pour l'humanité à une existence agraire. Une fois son projet abouti, une déclaration de sécurité serait envoyée à destination du cosmos. Plus de 20 000 de ses militants étaient retournés vivre en Australie dans ce but. Sur ce continent, à la population redevenue clairsemée après la fin de la Grande Migration, ils planifièrent d'établir un nouveau modèle de société. L'expérience de vie agraire des Sauveurs Verts en Australie était retransmise en direct 24 heures sur 24 sur toute la Terre. on ne trouvait déjà plus à cette époque d'outils agricoles traditionnels et ils durent compter sur des sponsors pour financer leur fabrication. Les terres arables australiennes étaient en nombre réduit, car la plupart étaient utilisées pour la culture de produits agricoles de qualité supérieure et à prix élevé. Les sauveurs verts durent donc se contenter de labourer des terrains dans les zones inhospitalières cédées par le gouvernement australien. Le travail collectif dura à peine une semaine avant que les sauveurs verts jettent l'éponge. Non pas par paresse, ils auraient pu continuer la besogne pendant un certain temps en ne comptant que sur leur seul enthousiasme, mais parce que les capacités physiques de ces hommes modernes ne leur permettaient plus d'effectuer ce genre de travail. Si leur souplesse et leur agilité dépassaient celles de leurs aïeux, ils n'étaient plus physiquement adaptés à ces travaux répétitifs et endurants. Sans compter que, même à l'époque des sociétés agraires, labourer un champ n'était déjà pas de tout repos. Les responsables de l'organisation des sauveurs verts exprimèrent leur profond respect à leurs ancêtres fermiers et le mouvement fut dissous. Ainsi s'acheva l'éphémère aventure de cette société agraire modèle. Certaines interprétations délirantes furent aussi à l'origine d'actions radicales. Des organisations anti-savoir firent le jour au sein de la société. Celle-ci appelait à la réduction de l'intelligence humaine. L'une de ces organisations projeta une attaque terroriste de grande envergure. Injectèrent une drogue appelée paralysant neuronal dans le système de distribution d'eau de la ville de New York. Cette contamination aurait provoqué des dommages cérébraux irréversibles dans la population. Fort heureusement, son plan fut découvert avant que l'organisation n'ait le temps de passer à l'action, et il eut pour seule conséquence l'interruption du système de distribution d'eau de New York pendant plusieurs heures. Toutes ces organisations anti-savoir, sans exception, exigeaient néanmoins de préserver l'intégrité intellectuelle de leurs membres et leur interdisaient de faire usage de drogues ou de moyens technologiques pour affaiblir leur propre intelligence. Ils se présentaient tout naturellement comme investis de la mission d'être les derniers sages de l'humanité. Ce serait à eux qu'il reviendrait d'assurer la fondation et la gouvernance d'une nouvelle société humaine dégénérée. Devant la menace d'une mort imminente et l'attrait de modes de vie alternatifs, les religions revinrent une nouvelle fois sur le devant de la scène. Si l'on se penchait sur le passé récent, la découverte de l'état de forêt sombre de l'univers avait représenté un choc terrible pour toutes les religions, et en particulier le christianisme. En réalité, les dommages causés à la religion étaient bien antérieurs et dataient des premières heures de la grande crise. Quand ils prirent connaissance de l'existence de la civilisation trisolarienne, les chrétiens comprirent aussitôt qu'il n'y avait jamais eu de place pour elle dans le jardin d'Éden, car pas une seule fois elle n'avait été mentionnée dans la Genèse. Pendant plus d'un siècle, Église et théologiens entreprirent une réévaluation douloureuse des dogmes et de la Bible. Et alors qu'ils étaient sur le point de trouver un moyen de justifier leur existence, était apparu le monstre de la forêt sombre. Tout à coup, les gens prirent conscience que coexistait au sein de l'univers un nombre incroyable de communautés intelligentes. Et si chaque civilisation avait son Adam et son Ève, la population du Jardin d'Éden serait à peu près aussi nombreuse que la population actuelle de la Terre. Mais pendant les calamités de la Grande Migration, on avait assisté à la renaissance des religions. Une nouvelle croyance avait été largement partagée. Durant les 70 dernières années, lorsqu'elle s'était retrouvée par deux fois aux portes de la mort et de l'annihilation, l'humanité avait été sauvée par deux miracles. Ces deux miracles, la mise en place de la dissuasion de la forêt sombre et l'activation de la diffusion cosmique d'ondes gravitationnelles, avaient eux-mêmes de nombreux points en commun. Ils étaient arrivés soudainement, sous la conduite d'un nombre extrêmement restreint d'individus, et devaient leur existence à un ensemble de hasards extraordinaires, comme l'entrée simultanée des deux vaisseaux et des gouttelettes dans le fragment quadridimensionnel. Ces signes avaient été célébrés comme des miracles évidents. Lors des deux crises, les fidèles avaient prié en masse, et c'était leur prière qui, selon eux, leur avait finalement accordé le salut divin, bien que les croyants débattent encore du rôle joué par Dieu dans toute cette affaire. C'est ainsi que la Terre devint une église à ciel ouvert, une planète de prière sur laquelle chacun implorait avec une foi inégalée d'être sauvé. Outre les quelques messes organisées par le Vatican à l'échelle du globe et célébrées par le pape, les gens priaient partout, seuls ou en petite communauté. Et la même adjuration était murmurée avant chaque repas et chaque coucher. « Seigneur, donne-nous un signe, aide-nous à exprimer notre bienveillance aux étoiles, proclame à l'univers que nous sommes des artisans de paix. » Une église spatiale mondiale fut construite en orbite terrestre basse. Il était cependant impropre de parler d'église, car l'endroit ne possédait comme seul édifice architectural qu'une croix gigantesque, dont les branches mesuraient respectivement 20 et 40 kilomètres de longueur. Celle-ci pouvait scintiller de façon si brillante qu'elle était visible la nuit depuis la surface. Les fidèles venaient la prier en combinaison spatiale, flottant à son pied. Il arrivait parfois que plusieurs dizaines de milliers de croyants se trouvent réunis devant elle. Elle était entourée d'innombrables cierges de grande taille pouvant brûler dans le vide, qui faisaient paraître bien pâle la lueur des étoiles. Vus depuis la Terre, ces cierges et ces masses de croyants semblaient être un nuage de poussière spatiale scintillante. Chaque nuit, des foules de fidèles priaient dans la direction de cette croix au milieu des étoiles. La civilisation trisolarienne elle-même devint l'objet de prières. Dans l'histoire, l'image de Trisolaris n'avait cessé de changer aux yeux des humains. Au début de la Grande Crise, ils étaient de puissants et malveillants envahisseurs extraterrestres, tout en étant aussi divinisés par les membres de l'organisation Terre Trisolaris. Puis leur image était lentement passée de dieux et de démons à de simples êtres vivants. Après l'établissement de la dissuasion de la Forêt Sombre, les Trisolariens furent discrédités comme jamais. Ils étaient devenus une bande de sauvages incultes obéissant aux doigts et à l'œil aux humains. Au lendemain de l'échec de la dissuasion, les Trisolariens retrouvèrent leur visage d'envahisseurs d'un autre monde et de fossoyeurs de l'humanité. Mais très vite, avec l'activation de la diffusion cosmique et en particulier après la destruction de leur planète, ils furent considérés comme des victimes et des compagnons de galère. Après avoir pris connaissance de l'existence de la déclaration de sécurité, la première réaction des sociétés humaines fut unanime. On exigea résolument d'Intellectra qu'elle révèle la méthode permettant de transmettre cette déclaration, sous peine de quoi elle se rendrait coupable de mondicide. Mais les humains eurent au fait de comprendre qu'il était vain de réprimander ou de condamner ce monde parti loin dans les étoiles et qui possédait toujours sur eux plusieurs longueurs d'avance technologique. Il valait encore mieux faire preuve de courtoisie dans leurs demandes. Les demandes se changèrent donc rapidement en suppliques. Peu à peu, à mesure que se multipliaient ces implorations incessantes et dans un contexte de résurgence religieuse, l'image des Trisolariens changea encore. S'ils avaient bel et bien en leur possession un moyen de promulguer cette déclaration de sécurité, alors ils étaient des anges du salut envoyés par Dieu. Si les hommes n'avaient pas encore obtenu d'être sauvés, c'est parce qu'ils n'avaient pas fait preuve d'une piété suffisante. Les suppliques adressées à Intellectra se changèrent en prières et les Trisolariens redevinrent les dieux qu'ils avaient naguère été aux yeux de certains hommes. La demeure d'Intellectra devint un lieu de pèlerinage et chaque jour, un océan infini de fidèles se rassemblait sous l'arbre géant. Leur nombre pouvait parfois être plus important que celui des pèlerins de la Mecque. La maison en bambou suspendue plus de 400 mètres au-dessus de la foule semblait minuscule vue de la surface. Elle continuait à apparaître et à disparaître au gré des ondulations des nuages blancs dans lesquels elle était enveloppée. Parfois, la silhouette d'Intellectra passait devant la demeure, mais on ne voyait aucun détail de plus que son kimono, petite fleur au milieu des nuages. Ces moments étaient rares et prenaient une dimension d'autant plus sacrée. Les croyants exprimaient leur dévotion de différentes manières. Certains redoublaient de ferveur dans leurs prières, d'autres l'acclamaient, donnaient libre cours à leurs émotions, s'agenouillaient ou se prosternaient sur le sol. Mais Intellectra se contentait de s'incliner légèrement devant cette masse gigantesque réunie au pied de son arbre, avant de rentrer silencieusement dans sa demeure. « Si nous obtenions réellement notre salut aujourd'hui, il n'aurait plus aucun sens. » « Il ne reste rien de notre honneur d'humain, » disait Bi Yunfeng, l'un des anciens candidats à la mission de porte-épée, devenu pendant la Grande Migration le leader de la branche asiatique du mouvement de résistance terrien. Il restait encore beaucoup d'autres individus raisonnables comme lui qui poursuivaient des recherches approfondies sur la déclaration de sécurité dans toutes les disciplines scientifiques existantes. Ces explorateurs cherchaient inlassablement un moyen scientifique d'adresser cette déclaration. Mais tous les résultats de leurs travaux débouchaient peu à peu vers une seule et même conclusion. Si la possibilité existait réellement de pouvoir transmettre une déclaration de sécurité cosmique, celle-ci nécessitait l'invention d'une toute nouvelle technologie. Or, cette technologie dépassait certainement de loin le niveau actuel de la science humaine, et personne sur Terre n'en avait jamais entendu parler. L'image de l'espace bleu, qui s'était évanouie dans les abysses de l'espace, changea une nouvelle fois dans les yeux d'enfants capricieux de l'humanité. D'un ange du salut, il redevint une nouvelle fois un vaisseau de ténèbres, un serviteur du diable ayant fait main basse sur le gravité et lancé une terrible malédiction aux deux mondes. Son crime impardonnable était l'œuvre de Satan. Les fidèles du culte d'Intellectra implorèrent la flotte trisolarienne de rattraper et d'anéantir les deux vaisseaux pour rendre justice à Dieu. Mais comme pour toutes les autres prières, cette requête ne reçut aucune réponse d'Intellectra. Simultanément, ce fut aussi l'image de Chung Sin qui évolua peu à peu. Elle n'était plus une porte-épée indigne, mais une grande femme de l'histoire. On déterra un vieux poème en prose écrit par un dénommé Ivan Turgenev, Seuil, pour la décrire. Chung Sin avait franchi avec courage ce seuil qu'aucune autre femme n'avait osé approcher avant elle. Elle avait accepté de porter sur le dos un fardeau inimaginable pour n'importe quel être ordinaire et avait accepté de subir une humiliation sans fin pour ne pas avoir envoyé au moment critique un message de mort à l'univers. On ne s'attardait plus sur les conséquences de son abandon de la dissuasion, on ne voyait désormais plus que son amour profond pour l'humanité. Et la souffrance née de cet amour, une souffrance qui lui avait même fait perdre la vue. Si on allait plus loin, on pouvait constater que cette affection du public pour Chung Sin était une réaction à l'amour maternel inscrit dans son subconscient. À cette époque où la notion de famille n'avait déjà plus cours, l'amour d'une mère était un sentiment rare. L'État-providence se substituait à elle et s'attachait à satisfaire tous les besoins fondamentaux des enfants. Mais aujourd'hui, à l'heure où le monde humain se retrouvait nu au milieu d'un univers sinistre, la faux de la mort pouvait tomber à tout moment. Le bébé qu'était la civilisation humaine se retrouvait abandonné dans une forêt obscure où régnaient la peur et les ténèbres. Il se mettait à pleurer et réclamait les bras d'une mère. C'était Chung Sin qui incarnait désormais cette figure maternelle. Cette belle jeune femme venue de l'ère commune était une messagère d'amour envoyée par leurs ancêtres. Les sentiments du public pour Chung Sin se fondirent dans l'atmosphère religieuse qui enveloppait un peu plus le monde jour après jour, et elle devint peu à peu la Sainte Marie de ce nouvel âge. Cette adoration brisait pour Chung Sin son dernier espoir de survie. À ses yeux, la vie était depuis longtemps devenue un chemin de croix. Si elle avait choisi de continuer à vivre, c'est parce qu'elle refusait de fuir devant le fardeau qu'il lui revenait de porter. Vivre, c'était la punition la plus juste pour son immense erreur, elle devait l'accepter. Mais aujourd'hui, elle était devenue un symbole culturel dangereux. Le culte grandissant autour de sa personne ne faisait qu'épaissir encore davantage le brouillard dans lequel s'était égarée l'humanité. Dès lors, disparaître à jamais devenait son ultime acte de responsabilité. Chung Sin réalisa qu'elle était étonnamment calme à l'aube de cette décision irrévocable, comme si elle avait depuis longtemps eu le projet d'entreprendre un long voyage et que, ses occupations maintenant terminées, elle pouvait partir d'un cœur léger. Elle se saisit d'un petit flacon dans lequel il ne restait plus qu'une gélule, un traitement d'hibernation de courte durée, grâce auquel elle avait pu hiberner pendant 6 ans. Mais sans système externe de support de vie, son ingestion entraînerait une mort indolore. En cet instant, L'esprit de Chung Sin était aussi transparent et vide que l'espace. Aucun souvenir, aucune sensation manifeste. Tout glissait sur sa conscience. Elle était comme un miroir reflétant les rayons du crépuscule de son existence, qui finissait sa course aussi naturellement que n'importe quel coucher de soleil. C'était cela. Si le monde pouvait disparaître en fumée d'une seule chiquenaude, alors la fin de la vie d'un individu devait être aussi paisible et aussi placide qu'une goutte de rosée courant le long d'une feuille. Au moment même où Chung Sin s'emparait de la gélule, son téléphone sonna. C'était Coupard. Il faisait nuit en Australie.
Gamine, la lune est belle ici ce soir. Je viens de voir un kangourou. Il faut croire que tous n'ont pas été mangés pendant la grande migration.
Coupard n'utilisait jamais la vidéo sur son téléphone, comme s'il était persuadé que ses mots étaient plus vivants que des images. Elle savait pertinemment qu'il ne la voyait pas, mais Chung Sin lui sourit tout de même. « Elle est magnifique, Coupard, merci. »«
Gamine, tout ira mieux, tu verras. »
Puis le vieillard raccrocha après cette simple phrase. Il ne devait cependant rien avoir remarqué d'Ida Mituel. Leur conversation n'était jamais bien plus longue. A.A. aussi était passé le matin même, lui rapportant avec exaltation que la compagnie avait remporté un nouvel appel d'offres pour un très gros chantier. La construction d'une croix encore plus grande en orbite géosynchrone. Chung Sin prenait soudain conscience qu'il lui restait encore deux amis et que, pendant tout le cauchemar qu'avait été cette période historique, elle n'avait jamais eu que ces deux seuls êtres à ses côtés. Si elle mettait un terme à sa vie maintenant, comment le vivrait-il ? Son cœur, encore sec et vide quelques instants plus tôt, se serra. Elle eut un haut-le-cœur. D'innombrables mains paraissaient se cramponner à elle. La surface paisible du lac de son esprit se troubla et le soleil qui s'y reflétait s'enflamma brutalement. 7 ans plus tôt, devant l'humanité tout entière, elle n'avait pas pu presser le bouton rouge et, à présent, en pensant à ses deux amis, elle ne pouvait avaler cette gélule qui lui offrirait la délivrance. Elle était à nouveau témoin de son infinie faiblesse. Elle n'était rien, rien d'autre qu'une femme comme les autres. Plutôt, la rivière qui s'étendait devant elle avait givré et elle pouvait facilement marcher jusqu'à l'autre rive. Mais désormais, la surface de cette rivière avait fondu et il lui fallait traverser à la nage cette eau noire et glacée. Ce serait une torture longue et intense, mais elle savait qu'elle atteindrait dans tous les cas l'autre rive. Peut-être hésiterait-elle, peut-être lutterait-elle jusqu'à l'aube, mais elle finirait par avaler la gélule. Elle n'avait déjà plus d'autre choix. Le téléphone sonna encore. C'était un Telectra. Elle les invitait, Luoji et elle, à participer à une dernière cérémonie du thé. Elle voulait leur dire adieu. Chung Sin reposa lentement la gélule dans le flacon. Elle assisterait à cette rencontre. Cela signifiait qu'elle avait suffisamment de temps devant elle pour franchir la rivière de souffrance. Le lendemain matin, Chung Sin et Luoji se rendirent une nouvelle fois dans la demeure aérienne d'Intellectra. Ils remarquèrent la foule de fidèles réunis quelques centaines de mètres plus bas. La veille, Intellectra avait annoncé au monde qu'elle s'apprêtait à partir et le nombre de croyants était aujourd'hui bien plus important qu'à l'accoutumée. Mais en lieu et place des prières et des acclamations ordinaires, régnait un silence gorgé d'attente. Intellectra accueillit ses hôtes à la porte, les traitant avec les mêmes égards que lors de leur dernière visite. La cérémonie du thé fut cette fois accomplie en silence. Ils savaient tous trois que les deux mondes s'étaient déjà tout dit. Chung Sin et Luoji pouvaient sentir la présence de la foule sous leurs pieds. Elle était comme un tapis anti-bruit qui avait pour effet d'aggraver le silence qui régnait dans le salon d'Intellectra. Une tension flottait dans l'air. Les nuages blancs qui enveloppaient la demeure paraissaient presque solides. Toutefois, les gestes d'Intellectra étaient toujours aussi gracieux et aériens. Elle manipulait sans bruit les accessoires à thé en porcelaine fine. Par sa douceur et son élégance, elle semblait neutraliser la lourdeur de l'instant. Plus d'une heure passa sans que Chung Sin ni Luo Ji n'aient trouvé le temps long. Intellectra présenta des deux mains son bol de thé à Luo Ji.
« Je dois partir. Prenez bien soin de vous. »
Puis elle tendit son bol à Chung Sin.
« L'univers est grand, mais la ville est encore plus. Peut-être aurons-nous l'occasion de nous revoir un jour. »
Toujours en silence, Chung Sin but son thé à petites gorgées, fermant les paupières pour en apprécier la saveur, laissant son corps s'imprégner de son amertume fraîche et légère. Elle avait l'impression de déguster de la lumière d'étoiles froides. Elle finit par vider son bol après un long moment. Chung Sin et Luo Ji se levèrent pour la saluer une dernière fois. Cette fois, Intellectra les raccompagna sur une partie du chemin. Ils descendirent ensemble les marches en colimaçon jusqu'à la branche de l'arbre. Les nuages blancs générés par la demeure se dissipèrent pour la première fois. Tout en bas, la foule de croyants attendait, toujours muette.
« Avant de nous séparer, j'ai une dernière mission à accomplir. Je dois transmettre un message, » dit Intellectra.
Elle s'inclina profondément devant ses deux hôtes, puis elle se redressa et leva la tête avant d'adresser un long et pénétrant regard à Chung Sin.
« Chung Sin, Yun Tianming souhaiterait te voir. »